Avec la solennité de ce jour, le baptême du Seigneur s'achève le temps liturgique de Noël, un temps d'une grande douceur, d'une grande tendresse aussi. Et exactement comme l'exclamation du Père au moment où Jésus se fait baptiser. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi toute ma joie. » C'est le grand message de Noël. L'épiphanie, ça signifie, au niveau étymologique, l'apparition, la manifestation. On pourrait traduire mot à mot par la surbrillance. Le verbe luire, phaino, l'épiphanie. C'est pas quelque chose de visible. Les mages avaient vu une étoile. Le peuple, lui, va voir un homme, mais un homme qui est aussi Dieu. Le baptême du Christ, c'est la sagesse divine en personne qui devient visible aux yeux de l'humanité. C'est quand même le miracle des miracles. Les Juifs ont prié dans l'espérance, y compris les plus justes d'entre eux, sans rien voir. Il y a eu des signes, des miracles, des prophètes, mais sans voir celui qui est derrière tout ça, ce Dieu du Sinaï. Et le Dieu du Sinaï, se montre à nous, non pas sous sa forme invisible, celle du Père, que personne ne peut voir, pas même les anges. Le Père n'est pas concevable pour les yeux d'une créature, c'est-à-dire l'esprit d'une créature. Ça, c'est la divinité pure qui transcende totalement l'humanité. Mais sous les traits d'une chair assumée, la sagesse divine devient vraiment totalement révélée sous nos yeux. Et pourquoi elle surbrille? Elle ne se brille pas seulement, mais elle dépasse toute luminosité, toute lumière de ce monde. Le baptême d'eau que Jean-Baptiste administrait, c'était une purification morale. Et de même que l'eau lave l'extérieur du corps, mais pas l'intérieur, ce baptême d'eau n'était pas capable de purifier l'intériorité de ceux qui venaient trouver Jean-Baptiste. C'est une purification morale à travers le respect des commandements, le retour aux commandements, et c'est une bonne chose, parce que c'est comme ça que Jésus voulait que soit préparée sa venue, et que les premiers disciples soient purifiés, sélectionnés en fonction de cela, pour montrer leur bonne volonté. Le baptême d'eau, c'est le baptême de la bonne volonté, on pourrait dire. Mais le baptême que Jésus, lui, va communiquer, va donner, selon les paroles de Jean-Baptiste lui-même, il se réalise dans l'Esprit-Saint et dans le feu. Alors l'Esprit-Saint, pour le coup, c'est cette sagesse divine, une sagesse qui est d'en haut, une sagesse qui n'est pas de ce monde. Et nous, dans la foi, nous avons cette sagesse parce que nous sommes habités par l'Esprit-Saint. C'est le sens du baptême. Et les croyants sont désormais, à partir du baptême, conduits par une sagesse qui n'est plus celle de ce monde et qui ne vise plus les finalités de ce monde, qui va bien au-delà, même si chacun d'entre nous ne le voit pas. Mais nous le percevons par cette intuition qui nous habite, comme l'Esprit de Dieu habitait les prophètes dans l'Ancien Testament. Le feu, lui, ça évoque une purification aussi, mais pas comme l'eau. Le feu purifie ce qui n'avait pas été purifié, c'est-à-dire l'intériorité. Le feu, c'est un grand symbole divin du jugement. Le feu, c'est ce qui purifie les âmes. Alors on a le feu que Jésus va utiliser, c'est son propre sang d'ailleurs, celui de la passion qu'il verse au moment de la passion. Ce sang nous purifie, mais pas extérieurement, c'est intérieurement. Tandis que le baptême de Jean le Baptiste est une purification extérieure, celle de nos actes. Et les actes restent extérieurs. Donc le baptême, c'est c'est quelque chose de nouveau radicalement. Et c'est pourquoi, de siècle en siècle, au long de l'histoire, eh bien, on voit bien la différence entre les véritables croyants et puis ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit Saint. Il n'y a pas cette purification, il n'y a pas cette lumière qui les éclaire. Enfin, il y a cette exclamation du Père, « Tu es toute ma joie, tu es mon Fils bien-aimé, tu es toute ma joie. » Ça nous dit combien le baptême et la foi, donc, nous introduisent dans l'amour même de Dieu, dans cet amour qui dépasse tout amour, tout entendement. Et comment, en une filiation adoptive, nous sommes adoptés comme fils et filles de Dieu. C'est incroyable de penser ça, alors que Adam et Ève étaient chassés du paradis. Eh bien voilà que Jésus renoue avec l'humanité et avec chacun d'entre nous. Mais avant que se réalise ce grand miracle, ce don ineffable que le Seigneur nous fait, eh bien il faut préparer, comme dit le prophète Isaïe, il faut préparer les chemins du Seigneur. Le grand char de la modernité, tiré par son attelage de deux chevaux robustes, apparemment fringants, piaffants que sont l'économie et la science, eh bien, ont pris un sérieux coup dans l'aile, en quelque sorte, avec la crise actuelle. Ces deux montagnes d'arrogance qui sont inconsistantes en elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas de substance, elles sont des idoles. La science vécue comme une idole, l'économie vécue comme une idole, c'est apportant le bonheur, apportant une vision du monde, un sens du monde. Vous voyez tout ce que les idoles, se substituant à Dieu, prétendent apporter, une mobilisation du monde, une organisation du monde, une lumière pour le monde, et blablabla, et blablabla. Et ces deux montagnes arrogantes, aujourd'hui, on voit à quel point, eh bien, elles sont mal en point, justement. L'économie, on n'en parle pas. En fait, on n'en parle plus. Depuis qu'on a le Covid, on ne parle même plus d'économie qui absorbait toutes les conversations médiatiques avant la pandémie. Mais en revanche, la science, là, c'est intéressant. Elle n'avait pas été très attaquée, la science, en tant que divinité. En tant qu'idole. La science divinisée, elle est divinisée par nos contemporains comme si c'était Minerve sortant du cerveau de Jupiter. Minerve, notre région porte ce nom-là. C'est la déesse de la sagesse, c'est la pensée subtile, c'est la raison. Et Jupiter, c'est le prince des dieux. Donc l'ineffable pour les païens. Donc c'est comme si ce verbe divin, ce pseudo-verbe divin, qu'est la science, allait apporter toutes les clés et les solutions à un monde qui piaffe d'impatience d'entrer dans la véritable modernité, dans l'espace, dans les fusées, dans les voitures qui volent, etc. Eh bien, la science, on le voit bien, avec les réponses plutôt décevantes par rapport à la pandémie et à bien d'autres dossiers en réalité, loin de se présenter, vous voyez, comme un développement progressif et triomphal, la science est parsemée mais d'une myriade d'échecs. Et ces échecs sont parfois extrêmement sanglants. Alors, bien sûr, comme en économie, comme en politique, on cache ce genre de choses. Mais pensez à Tchernobyl, pour une chose qu'on peut mesurer. Des choses de ce genre-là. La science, c'est bien, mais il faut tellement de temps pour que un cerveau humain puisse être capable de mesurer les effets à long terme de telle ou telle application technique d'une découverte. On voit avec la pandémie combien, s'il y a vraiment des scientifiques qui sont ridiculisés, c'est bien le domaine médical et le domaine la production de vaccins. C'est tellement ridicule, on n'en rit même plus. On fait vacciner avec des substances qui servent à rien contre des virus qui... la nature est finalement plus forte que la technologie humaine. Tout ça pour dire que dès qu'on divinise quelque chose, eh bien c'est la catastrophe. Et forcément, ce qu'on a divinisé finit tôt ou tard par s'écrouler et par paraître décevant. Alors il y a comme un jugement, comme un passage dans le feu dans notre crise contemporaine. C'est la science, mais voyez, une science trompeuse qui est élevée comme un idéal qui pourrait tout résoudre et qui en réalité n'en est pas capable. C'est une économie qui pourrait apporter par le luxe, par le confort, le bonheur dont les hommes ont besoin, et comme ça les guerres s'arrêteraient. Mais les guerres, au contraire, elles ne font que se multiplier par l'appât du gain. Tout cela nous montre une chose que Jésus nous a montré il y a 2000 ans en sortant des eaux du Jourdain. Il nous montre qu'il y a une nécessité absolue de dépasser la pensée du monde pour trouver la vérité. Et la vérité, c'est Dieu et Dieu seul. Arrêtons d'inventer la vérité. La vérité n'a pas besoin d'inventeur, elle est déjà là de toute éternité. C'est le message, le grand message que Jésus, sagesse de Dieu, est venu nous apporter.